Bonjour, merci de cette invitation. D'abord, je voudrais commencer en disant que j'étais très intéressé d'entendre Bruno Fulini citer la première intervention, la conclusion de la première intervention de Baudelaire-Dulary à l'Assemblée nationale, que je ne connaissais pas. Je suis intéressé, comme vous, par le fait qu'il ait conclu cette intervention en disant qu'il entendait se préoccuper du sort des classes les plus pauvres pour leur éviter de céder aux appels des factieux et des utopistes, et c'est le mot utopiste évidemment qui retient l'attention ici. J'en ai pas tout à fait la même interprétation, cela dit, puisque vous avez supposé qu'il a fallu une conversion de Baudelaire-Dulary pour qu'il arrive à s'intéresser à Fourier et qu'il veuille finalement tenter une réalisation pratique. Je fais l'hypothèse, au contraire, que pour comprendre cet usage apparemment surprenant dans un sens péjoratif de la notion d'utopie dans cette conclusion, c'est nous qui devons, et c'est vous, qui devez faire une sorte de conversion. C'est-à-dire que on la comprend très bien en réalité à partir du moment où on cesse de se représenter Charles Fourier comme un utopiste. Et on cesse de penser que Baudelaire-Dulary pouvait viser Charles Fourier quand il parlait d'utopisme. En réalité, il m'a semblé, quand on lit Fourier, qu'il y a chez Fourier même le même refus, la même défiance vis-à-vis de l'utopie. Et qu'il se retournerait certainement dans sa tombe s'il nous entendait, comme on le fait depuis quand même quelques décennies maintenant, le présenter comme un théoricien de l'utopie. Ce que je voudrais montrer maintenant, en partie, d'une certaine façon, avec ce qu'a pu expliquer Marion juste à l'instant, c'est que en réalité, Fourier se représente lui-même, après on n'est pas obligé de le croire, ou de lui accorder quelconque crédit, mais il se représente lui-même comme un scientifique. Et ce qu'il entend faire, ça n'est pas réaliser une utopie, c'est fonder les bases d'une science sociale. C'est le terme qu'il emploie lui-même. Alors, il y a des tas de façons de le montrer, à l'aide du texte même de Fourier. J'en ai exploré quelques-unes, on peut les mentionner rapidement. Par exemple, ce qu'on lui a reproché de la fantaisie ou de l'excentricité de son écriture, de son invention linguistique, peut être tout à fait considéré aussi, c'est en tout cas la façon dont il le présente, comme la volonté de construire une écriture proprement scientifique. Et il dit à un moment donné qu'il est bien obligé d'inventer des mots qui n'existaient pas pour désigner des choses qu'on n'a pas encore étudiées. De la même façon, on s'est beaucoup moqué, ses contemporains y compris, de sa manie classificatoire, c'est-à-dire de la façon qu'il a de tout classer. Et on peut s'en moquer, on peut le railler, on peut aussi le considérer comme l'expression d'une volonté d'imiter, de faire à l'image de ce qu'était la science à son époque. Et de cette façon-là, on peut trouver dans l'œuvre de Fourier un nombre très important de signes de cette volonté-là, c'est-à-dire de cette volonté de doter l'œuvre des attributs, au moins externes, de la scientificité. Et il y a un de ces attributs qui m'a particulièrement intéressé, parce que c'est certainement le moins idéologique qui soit à l'œuvre dans le texte fourieriste, c'est la volonté de fonder une science sociale expérimentale. Autrement dit, d'appuyer le modèle argumentatif de la science qu'il prétend fonder sur une importation dans le champ des études des sociétés de principes épistémologiques qui sont ceux des sciences les plus légitimes et les plus prestigieuses de son époque, qui sont les sciences de la nature, biologie, chimie, sciences physiques. C'est donc ça dont je voudrais vous parler maintenant, assez rapidement, pas couper trop la parole avant de passer à Simon de Petra. Mais ce que je voudrais faire remarquer quand même, c'est que ça, ça a été très peu vu. C'est-à-dire que décrire, comme je vais le faire, le phalanstère comme un laboratoire, c'est quelque chose qui a largement échappé, il me semble, aux commentateurs de Fourier, qu'il soit de son époque ou qu'il soit plus tardif, du XXe siècle. La question, c'est pourquoi, quand on commente Fourier, quand on commente la volonté de réaliser la théorie concrètement, de l'installer dans un espace et dans une architecture, pourquoi on ne considère pas cette démarche comme représentative d'une épistémologie ou d'une volonté scientifique particulière. J'ai pas totalement la réponse, vous essayerez de la construire avec les éléments que je vous donne. Ce qui est certain, c'est que cette volonté, elle est indéniable chez Fourier. Dans la théorie d'unité universelle, c'est-à-dire dans le texte de 1822, Fourier énonce les 12 devoirs d'études méthodiques auxquels, selon lui, la philosophie a failli, et dont l'observation suffirait au contraire à garantir l'accès à la vérité. Et une de ces règles méthodologiques fondamentales consiste, je cite, à se rallier à la vérité expérimentale et à n'admettre que la vérité confirmée par l'expérience. C'est par fidélité à ce principe que Fourier n'a jamais cessé d'appeler dans tous ses écrits à la mise à l'épreuve pratique de sa théorie par la formation d'une phalange de volontaires, par leur installation dans un phalanstère, par leur organisation en série agricole et industrielle dont le produit matériel extraordinaire démontrerait pratiquement la validité des principes théoriques de son œuvre. La première expression de cette exigence, c'est dans un manuscrit qui date vraisemblablement de 1803 qu'on la trouve. Il écrit « Si un plan de réforme est sagement conçu, pourquoi ne pas l'éprouver d'abord sur divers petits cantons afin de prévenir les désordres que produirait dans l'Empire entier la mise en œuvre d'un système érosé ?» Et ce même appel, on le retrouve dès le début, dès les premières pages de la théorie des quatre mouvements, 1808, puisqu'il écrit « Hasardons sur une lieue carrée l'essai de l'association agricole, c'est bien peu risqué pour courir les chances de tirer le genre humain du chaos social, de monter au trône de l'unité universelle et de transmettre à perpétuité le sceptre du monde à nos descendants. Ce qu'on voit ensuite au fil de son œuvre, au-delà de la théorie des quatre mouvements, c'est que l'exigence expérimentale n'a jamais cessé d'y occuper une place, quantitativement, de plus en plus importante. Ainsi, dans le traité de l'association domestique agricole, en 1822, la description du protocole expérimental permettant de vérifier la théorie occupe près de 200 pages. C'est ce que Fourier appelle la théorie en concret. Dans cette théorie, ça ressemble à une contradiction, mais en fait, ça ne s'en est pas du tout. Fourier n'étant de toute façon pas une contradiction. C'est dans ces 200 pages, dans cette théorie en concret, qu'il décrit minutieusement tout ce que Marion vient d'évoquer, c'est-à-dire les dispositions géographiques, architecturales, la composition sociologique du phalanstère, les règles à y respecter, la façon d'y organiser le travail, la production, la distribution, la consommation, la vie quotidienne. Donc je ne vais pas refaire la description que vous venez d'entendre. Simplement, ce que je voudrais indiquer, pour reprendre un petit peu aussi ce que Marion a dit, c'est que cette théorie en concret, et plus précisément encore la description du phalanstère, illustre très bien ce qui est, à mon sens, le double sens de la notion d'attraction chez Fourier. C'est-à-dire que d'une part, évidemment, l'attraction, c'est le mécanisme fondamental des interactions sociales. On sait que Fourier emprunte à Newton ce terme pour essayer de rendre compte de ce que devraient être les relations entre les individus dans une organisation harmonienne. Mais en même temps, le terme d'attraction, peut-être c'est ce qu'on a moins vu, c'est ce que Marion a rappelé d'une autre façon, désigne le mode de réalisation de la théorie. On a beaucoup dit, c'est Engels par exemple qui l'a dit, que Fourier croyait dans la force intrinsèque de l'idée vraie. Et quand Engels dit ça, d'ailleurs, il reprend, il me semble, une expression de Spinoza. C'est pas tout à fait ça. C'est pas seulement l'idée qui va se propager par une sorte de contagieux miraculeuse de la vérité. C'est en réalité le spectacle de la vérité qui permet cette contagion. Et quand on dit le spectacle, c'est-à-dire qu'il faut voir concrètement l'idée pour qu'elle puisse se propager. D'où l'importance pour la doctrine d'être attrayante. C'est dans ce sens-là aussi que Fourier pense l'attraction. C'est-à-dire qu'elle doit être séduisante. On trouve ça, par exemple, dans les reproches que Fourier fait à Robert Owen. Il lui reproche l'ascétisme de son architecture. Et il dit à Owen, on manquera le but qui est d'attirer. C'est-à-dire d'élever l'attraction industrielle au degré suffisant pour séduire hommes, femmes et enfants de tous âges et de toute fortune, entraîner les sauvages comme les civilisés. Fondamentalement, la théorie ne doit donc pas seulement être vraie, ça ne suffit pas, il faut qu'elle soit attrayante. Et c'est, par exemple, dans un autre registre, pour répondre à cette même exigence que Fourier a procédé souvent dans son discours par analogie, hein, pour rendre sa théorie, le texte même, attrayant. Si on regarde ça dans le détail, on s'aperçoit que cette volonté-là est extrêmement systématique et qu'elle influence très fortement la description même du phalanstère. Par exemple, Fourier affirme que dans le cas où le mécanisme serait praticable et démontré par une épreuve sur un village, il est certain que l'ordre civilisé ou morcellement serait abandonné à l'instant par le régime sociétaire. C'est pas seulement qu'il serait abandonné à l'instant, c'est qu'il faut que les gens le voient. Donc, il fallait que l'expérience n'ait pas lieu trop loin de Paris. Une cinquantaine de kilomètres, une soixantaine de kilomètres semblait parfaitement convenu. C'est à cette distance-là à peu près qu'on se trouve ici de Paris. Bon, si on se rend compte de ça, on va comprendre tout un ensemble de prescriptions architecturales. Par exemple, il faut que les visiteurs puissent regarder le phalanstère sous toutes ses coutures. Mais en même temps, et là, en réalité, il y a une tension dans le phalanstère, il ne faut pas qu'il puisse le parasiter. Donc, d'où l'idée de la clôture. On doit pouvoir voir, mais il ne faut pas introduire le parasite civilisé à l'intérieur de l'expérience. Si les visiteurs restent plusieurs jours, ils sont logés dans ce que Fourier appelle une quarantaine. L'expression est très claire. Voilà quel registre métaphorique il emprunte, c'est-à-dire qu'ils sont tenus soit dans un bâtiment à part, soit au dernier étage du phalanstère, sous les combles. C'est-à-dire qu'ils peuvent observer, mais ils ne doivent pas intervenir. Et ce qui permet tout à fait de comparer le phalanstère à une sorte d'éprouvette. Et c'est pas entièrement anachronique que de faire cette comparaison, puisque le mot éprouvette apparaît, enfin, la première apparition est attestée en 1803, donc un petit peu avant la théorie des quatre mouvements. C'est-à-dire un dispositif expérimental dans lequel on peut réaliser une expérience et observer son résultat sans parasiter le milieu où on réalise cette expérimentation. Alors, Fourier ne fait pas explicitement cette comparaison, mais on comprend beaucoup mieux une grande partie du sens que donne Fourier à son œuvre et à son projet si on imagine que le phalanstère est une sorte de laboratoire pour la science sociale qu'il imagine. Et la question, c'est si on se donne cette idée-là, la science sociale que propose Charles Fourier est une science expérimentale, quelles conséquences on en tire ? D'abord, on se rend compte que, évidemment, ça a une visée polémique. C'est-à-dire que, dans le texte de Fourier, comme dans ceux de ses disciples, il s'est beaucoup servi de cette exigence pour condamner ses adversaires en disant qu'ils sont incapables d'expérimenter. J'attends que Saint-Simon expérimente, j'attends que Owen expérimente, et je demande à voir. Mais soit ils le font et c'est raté, soit ils ne le font même pas, et c'est ce qu'on peut appeler de l'impéritie, mais c'est très exactement synonyme d'inexpérimentabilité. Mais sauf le mot très dimanche. Donc voilà, mais impéritie, ça veut dire ça. Le problème, évidemment, c'est que on ne peut pas indéfiniment proclamer cette exigence expérimentale et s'en servir comme arme polémique contre les adversaires, sans, à un moment donné, être contraint, effectivement, dire ben, « il faut qu'on y aille, quoi. Il faut qu'on fasse cette démonstration ». Et de ce point de vue-là, il est clair que l'histoire que Jonathan a racontée des différentes périodes du mouvement fourieriste, elle est marquée par les avatars de cette exigence expérimentale et de la des tentatives ou de la tentation de réaliser cette exigence. Je vais donc passer rapidement sur cette histoire-là, puisque Jonathan l'a raconté, et puis je ne suis pas totalement à l'aise non plus pour vous raconter des choses sur Condé-sur-Vègre, parce que je crois que vous en sachiez beaucoup plus que moi. Je voudrais quand même rappeler que Condé-sur-Vègre n'est pas le premier projet d'expérimentation fourieriste. C'est la première tentative concrète, mais le premier projet, c'est le projet de comptoir communal agricole que Juste Muiron a présenté à l'Académie de Besançon en 1822 ou 1823, il me semble. C'est-à-dire que la Société d'agriculture de Besançon avait mis au concours un projet de comptoir communal. En même temps, l'idée du sujet du concours avait été largement suggérée par Juste Muiron lui-même, par l'intermédiaire de son ami Désiré Ordinaire. L'idée, c'était voilà, une idée de comptoir communal agricole. C'était tellement suggéré que Juste Muiron fut le seul à répondre en réalité au concours, en proposant une description très détaillée d'un comptoir communal où les agriculteurs pourraient mettre en commun leurs produits et organiser le travail. Le projet n'a pas été jugé suffisamment bon. Il était le seul concurrent et il n'a pas été retenu. il a réussi à ne pas gagner alors qu'il était le seul concurrent. Voilà, en gros, il apparaît que la Société d'agriculture, rebutée par l'audace du projet de Muiron, parce que ça devait déjà ressembler à un phalanstère entier, a décidé qu'il s'était écarté de la question posée, alors qu'il avait largement contribué à poser lui-même la question, et ne lui a attribué qu'une mention honorable. Il y a pire, c'est que l'accueil que Fourier a réservé au projet de son premier disciple a été également extrêmement tiède. Enfin, ça ressemble beaucoup à Fourier. Selon Jean-Claude Dubot, Fourier n'a accordé à Juste Muiron qu'un demi-satisfecit. Fourier écrivait dans une lettre qui date à Muiron qui date de août 1824. « J'ai reçu les statuts du comptoir communal que vous m'avez envoyé. » Et je les ai parcourus, mais trop superficiellement pour en juger. Cet établissement ne se rattachant pas entièrement au régime d'attraction industrielle par série de groupes, je serai obligé de relire attentivement l'exposé. J'y ai remarqué, page 32, une disposition relative aux courtes séances est fort bien conçue pour opérer en transition, en mode moyen entre la civilisation et le régime sociétaire des séries. Autrement dit, Fourier juge que le projet de Muiron est plutôt un projet garantiste qu'un projet harmonien, et c'est ce qu'on peut effectivement appeler un demi-satisfecit. Enfin, cela dit, suffisamment ambitieux pour avoir été rejeté par la Société d'agriculture. Ce qui est intéressant, c'est que même avorté, même les juger par la société d'agriculture, ce projet pose tout de même, à mon sens, un jalon fondamental dans l'histoire de l'expérimentation fourriériste, dans la mesure où il est la première tentative pour indiquer les moyens de réaliser la théorie. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, et ce qui me permet de dire avec un petit peu plus de certitude ce que je n'ai fait que poser comme hypothèse au début de mon intervention, c'est que, en fait, Fourier est certainement le moins utopiste des fourieristes, et beaucoup moins utopiste, entre guillemets, que ses disciples, puisque il s'est senti obligé, par exemple, de refroidir lui-même les ardeurs de Muiron. Par exemple, il lui a écrit « L'impatience que vous témoignez sur la formation d'un canton d'harmonie est prématurée. Les moyens auxquels vous vous arrêtez sont insuffisants. Il faut d'abord qu'un traité régulier, un corps de doctrine, ait donné les notions nécessaires. » Et voilà, j'ai envie de dire, vous parlez d'un utopiste. Il fut extrêmement prudent, pensant que l'élaboration théorique extrêmement complexe et complète devait précéder l'expérimentation, et d'une certaine façon, il fit preuve de la même prudence à Condé-sur-Vègre. Je ne vais pas vous raconter Condé-sur-Vègre. Ce que je voudrais tout de même faire remarquer, c'est que, d'abord, on a caractérisé Condé-sur-Vègre unanimement, à l'époque et jusqu'à maintenant, comme un échec. Alors, je n'ai pas pour ambition de dire que ce ne fut pas un échec de la théorie fourieriste. Ce qui m'intéresse, en revanche, ce sont d'abord, quand on regarde les causes de cet échec, les causes évoquées de cet échec, on s'en prend souvent à l'architecte, Collon-Gingembre. Bon, Fourier l'a fait, hein. Il fut le premier, par exemple, à lui avoir reproché d'avoir construit un atelier à menuiserie en plaçant les fenêtres si haut que les ouvriers disent qu'ils ne verront pas sur les établis. Et Fourier continue, mais il prétend que les fenêtres élevées ornent mieux le dehors. On sent très bien dans tous les échanges de lettres entre Fourier, Baudet du Barry et l'architecte, que c'est ça le reproche. Hein. C'est-à-dire qu'il veut faire quelque chose de joli, d'impressionnant, alors que ici, les fourieristes, tout en considérant Fourier, imaginaient quelque chose de praticable. Et moi, ça me refait penser à cette histoire d'attraction. Et ça me fait penser que Collon-Gingembre n'est pas seulement en train d'imaginer son propre projet, mais d'une certaine façon d'interpréter les choses qui sont dans le texte de Fourier même. Hein. Il veut rendre le bâtiment attrayant pour qu'il séduise et pour que par contagion, l'idée s'en impose. Je ne crois pas qu'il était complètement à côté de la plaque en essayant cela, sauf peut-être sur le moment même où Fourier, pratiquement, avait peut-être d'autres préoccupations. D'accord. J'accélère, simplement pour vous dire qu'ensuite, toute l'histoire des expérimentations de l'école sociétaire a été, et Jonathan l'a rappelé, une histoire d'échec. Là encore, je ne vais pas contester cette idée que chaque tentative fut un échec, mais il me semble, il faut regarder dans le détail, alors je n'ai pas le temps de le faire là, la façon dont on a caractérisé ces échecs, la façon dont on a essayé de les expliquer, et ce qui apparaît clairement, c'est qu'à chaque fois, ça consistait à dire, c'est un échec concret, là, mais ça n'est pas un échec de la théorie, parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de début, de commencement, d'essai, d'expérimentation de la théorie. Et chaque dispositif rhétorique visant à caractériser ces expériences comme des échecs visait en réalité à dire que ça n'était pas du tout des expérimentations du fourierisme ou des idées de Fourier. La conclusion de ça, c'est qu'il apparaît à la fin de l'histoire qu'il n'y a jamais eu d'expérimentation fourieriste, donc la théorie est sauvée. Il faut regarder dans le détail la façon dont c'est. Non. Pour conclure, ce qui moi m'intéressait dans cette histoire de l'exigence expérimentale, c'est que c'était une. Il y a eu, de la même façon que Karl Garnier disait qu'il y avait eu une alternative à un moment donné dans l'histoire américaine qui aurait pu permettre à cette histoire de prendre un autre chemin, hein, qui aurait pu être un chemin fourriériste, mais pas seulement. Voilà. Et que cette histoire, enfin que la bifurcation, cette ouverture a disparu avec la guerre de sécession et l'erreur fondamentale du fourriérisme américain qui fut de ne pas prendre parti de façon suffisamment claire. D'une certaine façon, le capitalisme a triomphé, le fourriérisme a disparu. Il me semble que dans l'histoire des sciences sociales, il y a peut-être eu aussi une alternative, et pas utopique, mais une alternative expérimentale. Et Fourier en était un des porteurs. Et c'est cette alternative qui s'est refermée avec l'échec, d'une certaine façon, des expérimentations fourriéristes. On aurait pu imaginer une sociologie, une science sociale, reposant sur l'expérimentation. D'une certaine façon, ce n'est pas en sociologie que cette idée de l'expérimentation s'est imposée, c'est plutôt, par exemple, en psychologie, ou dans d'autres domaines beaucoup plus marginaux par rapport aux sciences sociales, mais par exemple en psychologie. Et c'était une voie ouverte qui, en son temps, si on la juge avec les critères qui font la science en son temps, n'avait rien ni de simpliste, ni d'utopique. Voilà.